Petit beau jour.
La nuit est pleine d'étoiles.
Après la nuit.
Un homme de la nuit, un vrai, un bourlingueur, un tourlourou, un vrai poète et un penseur philosophe.
Et tout d'un coup, il peut y avoir des événements, des rencontres inattendues, des carambolages. C'est tout ça qui fait aussi le monde de la nuit, c'est intéressant.
Écoutez l'émission Après la nuit avec un sommaire aujourd'hui un peu spécial pour notre émission, sorte de kaléidoscope des diversités du monde. Plusieurs témoignages et réflexions alimenteront notre reportage tourné vers l'avenir. Commençons par celui du père Bruno, également arbitre de football.
Ouais, je suis arbitre, je fais la tige depuis 30 ans, 35 ans. Dans le sport, tu triches pas. C'est vrai, en plus, tu joues. Donc quand t'es en colère, quand t'es vrai, quoi. Donc,
on voit les mentalités des peuples.
On voit tout de suite les mentalités, mais même on voit tout de suite la vérité de la personne, quoi. On triche pas, et là, on est obligé de faire la paix aussi, tout de suite. C'est rencontrer d'autres cultures, et c'est comprendre comment, chez nous, dans mon pays, les cultures sont très, 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 très différentes. On a des cultures qui viennent de tous les pays du monde et à l'image de l'équipe de France de football, hein, des Blacks, c'est pas péjoratif de ma part. Hein. C'est vraiment un pays formidable, la France, qui elle ne s'aperçoit pas, mais qui apprend à gérer le monde. Elle gère le monde parce que tous les gens viennent d'Afrique, beaucoup de gens viennent du Maghreb, beaucoup de gens viennent d'Amérique latine, d'Asie. Le pourcentage du PIB en France pour la solidarité internationale est de 0,2%. Alors qu'il y a 20 ans, il était devenu 1,5. C'est-à-dire que plus on est riche, moins on est solidaire.
Et comment ça se fait, ça ?
Le manque d'ouverture, le manque d'une pensée qui ouvre aux autres. Peu à peu, même inconsciemment, on n'a plus cette tradition d'ouverture à l'autre qu'on avait. Et on devrait nous faire croire que ça va mieux aller. Ça n'ira pas si on ne s'ouvre pas à l'autre. Quand les futurs conflits vont avoir lieu autour de l'eau, hein, il y aura des sécheresses, il y aura des peuples qui n'auront pas cette culture, peuple subsaharien, peuple Afrique. On peut pas aller chez eux en prenant leur richesse minière et puis revenir chez nous et qu'eux on ferme notre porte. C'est pas possible. Soit on les aide vraiment, soit on met en place vraiment des partenariats économiques réels en les aidant à se construire, soit on peut pas fermer les frontières.
Tu parlais, je crois, du continent africain.
Ah, pour moi, c'est le continent le plus oublié de la planète.
Alors qu'il y a une richesse formidable.
Oui, les Chinois, d'ailleurs, ils sont très présents. On l'oublie facilement. Parce qu'en France, les Chinois sont très présents. Nous, on croit être présents parce qu'on avait une tradition dite coloniale et maintenant l'indépendance et tout. Mais il faut qu'on se réveille. Hein, Je travaille avec des jeunes qui parlent en coopération en Afrique. C'est très intéressant de voir.
On peut expliquer, c'est quoi ?
La coopération, c'est de passer un an, deux ans en Afrique. Et de revenir avec une expérience enrichie de techniciens, d'éducateurs, d'enseignants. Et quand ils reviennent, ils disent mais on est fou, on n'a rien compris. C'est-à-dire au sens, on se regarde vivre et on voit pas que les besoins sont énormes ailleurs et qu'on n'apporte rien. Et donc ça fait aussi là une poudrière, manque d'éducation, manque de richesse, manque de savoir-vivre de nous-mêmes vis-à-vis des autres.
Savoir-vivre vis-à-vis des autres, comment les jeunes le vivent en banlieue. Voici un témoignage recueilli lors du premier forum des quartiers populaires à Saint-Denis.
Si vous voyez dans la rue un arabe, un noir et un blanc, ça c'est sûr que c'est l'arabe et le noir qui vont se faire contrôler. Hein. Ça c'est sûr et certain. Mais c'est... je sais pas, c'est pas... Ils se disent pas dans la tête, oui, là, ça, lui, ici. Ils voient sa tête, ouais, voilà, il a une tête cramée, voilà. C'est direct, tu le contrôles, cherche même pas à comprendre. Alors que le mec, c'est sûr, il a un bac plus 4, il travaille ici ou ça. Pour moi, je sais pas, par exemple, moi, je te vois toi. Et je vois lui. Bon, pour moi, je contrôle lui. Vous voyez ce que je veux? Parce qu'il a une tête cramée.
Ça, c'est un
intéressant, c'est de la radio, mais putain, comment tu fais toi pour voir la différence?
Il a un pantalon qui arrive jusqu'à là, et lui, par exemple, toi je te vois, tu marches normal, lui il se tape une démarche. C'est sûr que c'est lui que je vais contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que lui il se la raconte.
Je suis d'un quartier moi-même aussi. J'ai grandi dans le même truc, la même merde aussi, donc finalement, toi, même si toi tu dis ça, c'est ça qui me fait bizarre, c'est que si t'étais flic, tu ferais la même chose finalement.
Bah non, justement. Justement, ce que je vous dis, je parle d'un flic, je parle pas de moi, je parle de la pensée des flics. Non, je parle pas de moi, je vous assure, quand je descends pas quoi que ce soit, ça c'est sûr que je me fais contrôler tout le temps. Moi, je finis le travail tous les soirs à minuit. Moi, je travaille dans un restaurant, je finis à minuit. En un mois, là, je me suis fait contrôler 3 fois. C'est normal ça, alors que j'habite...
La tête que t'as, on va dire, mais que t'habitais dans un autre quartier, tu penses que ça t'arriverait ça?
Bien sûr, ça arriverait, bien sûr, ça arriverait. Alors quand je dis ça, c'est la façon d'être. C'est la façon d'être pour moi. Bon, c'est comme ça, quoi.
Il y a une démarche. On sait que tu viens d'un quartier ou pas?
Ouais, mais ça veut pas dire nécessairement qu'on fait des conneries.
Voilà, c'est moi qui fais des conneries. Voilà, c'est comme si quelqu'un il m'a un jean, l'autre il m'a un pantalon. C'est un style. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas une raison pour venir nous contrôler à chaque fois. C'est ça, non? Et j'ai remarqué que depuis que Sarkozy a été élu, je vois que des camtards de keufs de partout. Il y a que ça, il faut dire ce qu'il y a. Je vois de plus en plus de police partout. Pourquoi? Je sais pas.
Enfin, moi, là, si on est plus vraiment dans l'interview, mais moi, je pense pas, en fait, que ce soit une question de simplement de racisme, parce que je vois vraiment qu'il y a des blagues dans la police aussi, des rebeux, finalement, c'est ce qu'on leur demande de faire aussi. Il y a des mecs qui sont jeunes dans l'histoire, hein, et on les envoie.
Protéger ceux qui n'ont pas les moyens, je sais pas, qui sont là, qui sont arabes, rebeux, turcs, je sais pas, n'importe quelle origine. Normalement, il doit être là avec eux. Ou il doit leur enfoncer dans la merde.
Sûr, si je suis avec lui, lui devient policier, je l'adresse même plus à la parole. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr, je l'adresse même plus la parole.
Moi je te répète,
tu vois, que finalement.
Contrôler les insulter. Et après il devient
policier. Gardien de la paix comme c'est, ça doit être normalement.
C'est pourquoi je veux être keuf. Regarde, maintenant si je suis keuf, au moins toi, je pourrais pas te contrôler. Tu vois, je peux te laisser passer des petits trucs. Alors que tu vois, c'est pas pareil. Moi sur ce, je veux bien être keuf, mais je peux pas.
Il pourrait y avoir des bons keufs, mais le problème c'est qu'il faudrait qu'il y ait une bonne direction. Donc, c'est difficile quand même. Si on veut faire changer la police, il faut arriver en haut de la police. Il faut qu'il y ait des bons policiers, mais je sais pas comment on les appelle, là, les chefs, les brigadiers. Ah, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du brigadier? L'officier de police judiciaire.
Il y a les chefs d'État aussi, il y a une politique du ministère de l'Intérieur aussi.
Si on veut que la police elle devienne bien, et c'est en haut qu'il faut la changer. Et c'est pas eux qui peuvent la changer, ça vient des ordres, donc ça vient du président. Mais président, il fait ce que les électeurs, ils ont voulu. Donc le problème, c'est que les électeurs, ils ont voté pour Sarkozy. Donc ils ont voté pour que la police, elle vous emmerde. Mais si les électeurs, ils ont voté pour que la police, elle les emmerde, c'est parce que les électeurs, ils en ont marre que les jeunes, ils les fassent chier. Et donc on est dans un cercle vicieux, là. Parce que plus les jeunes, ils font chier les gens, plus les gens, ils ont peur, plus les gens, ils appellent les flics, plus ils votent Sarkozy, plus les flics en font chier les jeunes, plus les jeunes, ils font chier et on s'en sort pas.
Réflexion d'une éducatrice de rue rencontrée lors du premier forum des quartiers populaires à Saint-Denis. Retrouvons à présent Bruno qui pose son regard sur le monde, à commencer par le continent asiatique.
Le monde chinois, on ne peut pas l'oublier aujourd'hui. Le monde chinois, l'Asie, l'Inde, l'Asie, à travers la Chine et l'Inde, c'est ça. Ça, dans les 20 ans qui viennent, on va avoir des surprises. Hein. Ils disent rien, mais ils travaillent énormément. Mais nous, est-ce qu'on a envie de travailler? C'est une question. Eux, ils travaillent. Nous, on vit sur des acquis. Je pense, est-ce que c'est la fin d'une civilisation? Je pense, peut-être une civilisation qui s'amorce, un nouveau millénaire, et on le voit arriver plus vite qu'on le croit.
Qu'est-ce qui va se passer avec le continent asiatique dans quelques temps?
Je sais pas, je suis pas devin, mais je vois qu'ils travaillent. Je vois qu'ils travaillent énormément. Eux, ils ont peur de rien, et l'histoire montre que ceux qui n'ont eu peur de rien ont su avancer. Nous, on cherche à protéger des acquis. à ne plus avancer. On cherche à défendre des choses et on sent bien qu'on les défend avec une peine perdue. On défend des choses qui... Ouais, je le ressens très fort, ça. On attend que le monde passe, mais le monde ne nous attend pas. Hein. Il va vite.
Le monde va vite, mais au fait, comment va-t-il le monde ?
Ah bah le monde, il va bien, puis il va pas bien. Il va pas bien, on peut pas continuer à... Par exemple, la question de la Palestine, une question essentielle, est un conflit. On dit que c'est un petit conflit local entre des Palestiniens et des Israéliens. Non, c'est un conflit bien plus grave qui peut amener une guerre mondiale. Hein, faut pas... Si je suis là pour la paix, moi c'est ça qui m'intéresse. Hein. Attention, hein, on est sur une poudrière parce que on en fait une guerre dite de religion. Non, des extrémistes nous introduisent dans un cercle de violence extraordinairement fort. On doit résister à ça. Quand on rencontre des enfants palestiniens ou israéliens, ce que j'ai pu faire de ma vie, c'est on les aime. Quand je vois des extrémistes, on rencontre pas d'extrémistes. Les extrémistes ne dialoguent pas. Les extrémistes proches la haine. Voilà. Et là, il y a beaucoup d'extrémistes dans ce monde qui invitent à la violence la plus absolue au nom de Dieu. Et c'est pas Dieu. Hein. En Irak, en Iran, excuse-moi, c'est pas des musulmans honnêtes qui disent ça. C'est un courant musulman extrémiste. Et voilà. Donc on est quand même sur une poudrière de gens qui balancent quand même des choses fortes. Hein. Ça, c'est pas normal. Au nom d'ailleurs d'une injustice qu'il y a derrière. Une injustice économique, une injustice entre pays. Hein, qui est réelle et qui n'est pas dénoncée, ça. Ça m'a... Voilà. J'ai dit, le monde peut aller mieux, le monde va mal. Parce que nous sommes d'un côté égoïstes et de l'autre côté, ils n'ont pas. Alors ça ne pourra pas durer éternellement.
Voici à présent le témoignage de Johari, d'origine de Madagascar et recueilli dans une famille croate, le temps d'une rencontre européenne de Thésée.
J'étais accueilli dans une famille à une heure de tram de Zagreb et je ne sais pas comment décrire, c'était un accueil plus que chaleureux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais, on m'a dit qu'il fallait emmener de quoi pouvoir dormir par terre. Donc moi, je pensais plus dormir dans une école ou dans un endroit comme ça. Et là, je me retrouve dans une famille avec un vrai lit. C'est très impressionnant.
Donc ta famille à la base qui voulait accueillir, je crois, des Serbes, c'est ça ?
C'était une famille, en fait, qui voulait justement montrer que la guerre avec les Serbes est finie et que maintenant, il faut passer à autre chose. Et donc, ils voulaient, à la base, accueillir des Serbes, mais une des personnes de la paroisse a été accueillie par la Fondation d'Auteuil en France cet été et ils voulaient accueillir des Français de la Fondation. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans cette famille-là.
Du coup, dans la famille, il y avait qui dans la famille ? Donc, il y avait toi ?
Il y avait moi et puis Hervé, un jeune architecte qui est dans une des résidences de la Fondation d'Auteuil, qui loue un appartement à la Fondation d'Auteuil.
D'accord. Et puis, donc, dans ta famille croate, il y avait qui ?
Donc, il y avait les parents, je ne sais pas comment ils s'appellent, puisqu'on les appelait Tata et Mama.
Et c'était vraiment la famille, là.
C'était, moi, j'ai vraiment découvert une autre famille qui, pour moi, maintenant, fait partie de ma famille. Enfin, je sais pas, je pense aussi que pour eux, je fais partie de leur famille.
C'est comme s'ils t'avaient adopté, quoi.
Voilà, c'était vraiment ça. Et donc, il y avait les parents, il y avait Domagoj, c'est un des enfants qui est musicien. Il y avait Yelena qui est guide touristique. Maria qui est encore étudiant au collège. Et puis Anna qui n'habite plus dans la maison mais qui travaille à Zagreb même.
bien. Et en quoi consistaient donc les moments que tu passais avec cette famille?
Donc c'était vraiment repas. Donc dès qu'on était arrivé, ils ont sorti des gâteaux qu'ils ont fait la veille pour nous accueillir. Des charcuteries de Serbie et de la Croatie, justement pour montrer cette union qu'ils veulent mettre en place avec la Serbie. C'était vraiment que, c'est pas que ça, mais c'était essentiellement ça. Et puis vu que Jelena est guide touristique, donc elle nous a fait visiter Zagreb un peu partout dans la vieille ville de Zagreb, en expliquant les légendes, ce qui se passe, les orientations des statues et tout ça.
Alors, qu'as-tu appris justement sur cette ville de Zagreb? Quelle est son histoire? Est-ce que c'est récent?
C'est une ville qui date du Moyen-Âge. Donc, je pense que c'est, pour moi, l'histoire la plus marquante, c'est l'histoire de la cathédrale de Zagreb. Donc, la cathédrale a été construite en l'an 1100 et quelques. À chaque fois qu'elle était finie d'être construite, quelque chose fait que soit elle est détruite, elle est détruite et elle est toujours en reconstruction. Donc maintenant elle est de nouveau en reconstruction, mais c'est un peu particulier puisque le fonds, l'argent pour cette reconstruction vient des habitants de la Croatie qui n'ont qu'une chose à faire, c'est ramener toutes les bouteilles vides pour les vendre à un autre pays étranger. Je sais pas lequel, mais apparemment ça marche très bien.
Et dans le but de financer la reconstruction
de la cathédrale. Venez à Zagreb. Je pense que si on veut vraiment connaître les pays, il faut y aller. Parce que je pense que pas mal d'entre nous avaient des préjugés par rapport à ce qui s'est passé avec la guerre, par rapport à la sécurité, par rapport à l'architecture, par rapport même aux conditions de vie des Croates. Et c'est vraiment, je pense, une chance énorme de pouvoir vivre avec eux une semaine comme ce qu'on a passé pour Thésée. Il n'y a pas des mots pour décrire ça, je pense.
C'est à chacun de le vivre.
C'est vraiment à chacun de le vivre.
Thésée permet la rencontre de milliers de jeunes issus de toute l'Europe. Johari nous explique la rencontre entre ces peuples et ces différentes cultures.
Il y a pas mal, je pense, malheureusement, de Français qui ont eu du mal à communiquer avec les autres Européens. Par exemple, avec les Polonais qui étaient vraiment nombreux, les Slovènes, les Croates. C'est essentiel pour moi de savoir parler plusieurs langues pour pouvoir communiquer.
Parce que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que Thésée, les rencontres européennes de Thésée, c'est au-delà de la religion, c'est aussi rencontre des peuples entre eux, quoi.
C'est vraiment une rencontre pour la paix et pouvoir discuter autour d'un thème comme la lettre de Calcutta, c'est quelque chose. Je ne sais pas si on peut le vivre autrement. C'est comme beaucoup de choses qu'on a vécues à Zagreb. On peut pas le décrire. Il n'y a pas de mots. Enfin, en tout cas, je ne connais pas les mots pour les décrire.
La lettre de Calcutta, on peut peut-être le dire aux auditeurs qui ne le savent pas. Donc, c'est une lettre de frère Aloïs qui est donc le successeur de Frère Roger dans la communauté de Thésée. Et pourquoi Calcutta ? Puisque les frères de Thésée se sont rendus en Inde il y a quelques mois.
Je connais pas du tout, je connais pas l'origine de cette lettre, mais ce que j'ai lu dedans, c'est vraiment un message de paix et d'union de tous les peuples. Et je pense que c'est ça qu'il faut perpétuer. C'est pas que pendant les rencontres de Thésée, puisque avoir la chance pour certains d'entre nous d'avoir visité le mosquée de Zagreb et même d'avoir entendu les musulmans parler de leur religion, c'est déjà pour moi un pas énorme vers la paix. Même si c'est juste localement, c'est si chacun fait localement la démarche d'aller vers l'autre, je pense que il y a que cette solution-là qui est possible pour la paix.
À la rencontre d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres religions. Une marche vers les autres, une marche vers la paix. Johari nous proposait son regard d'avenir pour guérir le monde qui va mal. À la programmation musicale, vous avez pu entendre Meredith Monk et Robert Hahn, l'harpiste et chanteuse Hélène Bréchamp, un extrait de l'album Angelica 1997.
Après la nuit.
Après la nuit, une émission préparée et réalisée par Philippe.
HTR Le Mix. She sits up all night, every night, down in the kitchen, summer and winter, dressed only in her nightdress, seated at the table, silent, thinking. Sometimes her head is in her hands. Sometimes she stares off into space.
Sometimes she pulls her hair until the tears come. She is thinking only that this is the only time she has. We stop her if we were mother says, why are you such a bad girl? You used to be so kind and thoughtful. Her father says, you know you only hurt your mother. If she keeps doing it, they will have to call the doctors. Night is the only time I have. Only time people are not trying to confuse me with demons. Night. She tiptoes into the kitchen, leaving the light blazing. Sits down at the table in the quiet. With the tiny room alone and silent. Dark, floating in a sea of dark. Only light inside, and her there, sitting barefoot in her nightdress at the table, only thinking. When the doctors come and find out she's always been a little strange, while her parents weep because she is clearly not herself, when parents secretly conspires with parents to discredit conscience and reject all criticism as a shameful sickness, it is then that wealthy patrons of the state, with numberless murders in their hearts, make public acclaim of the morality. One more.
tumulto dell'estate.